écoutez Radio Vatican, il est 8h15.
Dernier débat à Cancun, la conférence de l'ONU sur le climat vit ses dernières heures. Apparemment, les 192 délégations sur place seraient sur le point de se mettre d'accord. D'accord sur un texte peu ambitieux, mais qui relancerait le processus de négociation sur le climat un an après l'échec de Copenhague. Aux États-Unis, Hillary Clinton a tenté hier soir de ranimer le processus de paix au Proche-Orient. Washington ne sera pas un partenaire passif, mais ce sont, dit-elle, aux Palestiniens et aux Israéliens d'agir sans délai. L'Iran dément avoir libéré Sakineh et en apporte la preuve. La mère de famille condamnée à la lapidation pour le meurtre de son mari et pour adultère était hier soir l'invitée d'une émission de télévision en Iran. En Haïti, personne ne souhaite plus le recomptage des voix de la présidentielle. Ce matin, la candidate arrivée en tête du premier tour se retire elle aussi d'une procédure dont elle juge les modalités trop floues pour être valides. Enfin, retour sur le Kosovo, le nouveau-né des Balkans se rend aux urnes demain. On y revient dans notre dossier.
Le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous, il est 1h passée de 15 minutes au Mexique, on est en pleine nuit. À Cancun, la conférence sur le changement climatique vit maintenant ses dernières heures. Pays industrialisés, pays émergents ont entamé leur ultime assemblée plénière et une nouvelle nuit blanche s'annonce pour les 192 délégations rassemblées par l'ONU. Un an après Copenhague, des progrès notables ont été apparemment accomplis. Un compromis aurait même été trouvé sur une série de dossiers comme la lutte contre la déforestation ou la volonté de limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius, nettement plus difficile à finaliser. Un accord global sur l'avenir du protocole de Kyoto, seul texte juridiquement contraignant. Martina Liepsch et représente la Caritas Internationalis à Cancun.
Le problème est réel, il est visible dans tous les endroits. Par exemple, une personne du Bangladesh nous dit que si la mer va monter de 1 mètre, le Bangladesh va perdre 20% de son territoire, alors je pense que ça c'est très clair. Mais apparemment, avancer sur des accords clairs, c'est beaucoup plus difficile. Et alors, notre message s'adresse en fait aux leaders des nations, aux fonctionnaires, aux négociateurs, de dire, oui, on comprend, négociation c'est pas toujours facile, mais il nous faut avancer. J'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec une dame qui fait de la recherche, et elle me disait, en fait, on doit réaliser que pour certaines choses que peut-être on tente de préserver, alors on parle beaucoup aussi des forêts, des domaines naturels, peut-être on doit réaliser que pour certaines choses, c'est trop tard. Et ça qu'il nous faut, c'est une vision à long terme pour les prochains 20 à 100 années pour éviter qu'il y ait des gens qui meurent, qui souffrent de la famine et se focaliser plutôt sur ça.
Des propos recueillis par Charles-François Brejon. À Cancun, la Caritas a donc exhorté ces derniers jours les gouvernements à assurer des fonds nécessaires à l'adaptation des pays pauvres au changement climatique, à réaffirmer aussi leur engagement en faveur d'un accord équitable. On reste au Mexique, le cartel de la Familia a été décapité cette nuit. Après 3 jours de fusillade, la police a tué Nazario Moreno, un des 2 chefs et fondateurs du cartel qui règne sur l'état du Michoacán, à l'ouest du pays, et surtout sur le contrôle et la production de drogues synthétiques au Mexique. Il n'y aura pas de moratoire sur la colonisation israélienne, on le savait. Après le revers cuisant de cette semaine, l'administration américaine a tenté hier soir de donner un nouvel élan aux négociations de paix au Proche-Orient. Face à un parterre d'experts, Hillary Clinton a exhorté hier à Washington les Israéliens et les Palestiniens à travailler ensemble et sans délai sur les dossiers clés du processus de paix. La correspondance de Khalil Heroud.
Les États-Unis ne seront pas un partenaire passif dans la recherche de paix entre Palestiniens et Israéliens, mais il incombe aux 2 parties de mettre fin au conflit pour assurer une paix durable dans la région. C'est ce qu'on devra retenir du discours de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton hier soir. L'administration Obama reste donc engagée dans le processus de paix, mais à travers des négociations indirectes. Selon Hillary Clinton, le seul moyen d'établir une paix durable, c'est à travers des discussions directes et des compromis entre les 2 parties. Plusieurs questions de fond ont été évoquées par Hillary Clinton dans le tracé d'une nouvelle carte aux frontières reconnues au plan international. celle des réfugiés, de la sécurité, ainsi que la création d'un État palestinien tout à fait envisageable dans un avenir proche. Les États-Unis s'efforcent donc de ranimer le processus de paix dans l'impasse, malgré leur implication directe depuis septembre. Mais les Palestiniens ont déjà indiqué que les discussions directes sont tout simplement impossibles sans le gel des constructions dans les colonies. Washington, Khalil Herroud pour Radio Vatican.
La Maison-Blanche y tient et menace. Sans signature du traité START, il n'y aura pas de vacances de Noël pour les membres du Congrès. L'administration Obama, qui a dit cela dit être confiante du soutien des sénateurs au traité de désarmement nucléaire signé avec la Russie. Personne ne veut plus le recompte des voix. On est cette fois en Haïti. Ce matin, la candidate arrivée en tête du premier tour, Mirlande Maniga, a refusé de prendre part à la procédure lancée par le Conseil électoral de Haïti. Une procédure dont les modalités sont trop floues pour être jugées valides, selon elle. Mirlande Maniga n'est pas la première à exclure un recompte des voix. Michel Martelly, arrivé lui en troisième position, qualifiait déjà hier ce recompte de piège. Une manière, dit-il, qu'aurait trouvé le président sortant. Pourtant, René Préval pour imposer son candidat, Juste Célestin, arrivé lui en deuxième position au premier tour. Menacé de sanctions par les États-Unis, lâché par l'Union africaine, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo ne renonce pas pour autant au pouvoir, perdant mais entêté. Le président sortant s'est cela dit prêt hier au dialogue avec Alassane Ouattara, le vainqueur de la présidentielle ivoirienne. Frédéric Lejal, le rédacteur en chef de La Lettre du Continent, analyse pour nous cette démarche étrange d'ouverture de Laurent Gbagbo.
Laurent Gbagbo est en train de jouer l'ouverture sur deux plans. Le gouvernement qu'il a formé est un peu délesté des caciques et des durs de durs de sa mouvance, le Front Populaire Ivoirien. Il y a des gens comme Paul-Antoine Beaune-Boisbré, par exemple, qui n'y figurent plus. On sait également qu'il a essayé de tendre la main vers Alassane Ouattara. Il l'a appelé il y a quelques jours et Alassane Ouattara a refusé de le prendre au téléphone. Donc il y a une espèce de volonté de sa part d'aplanir un peu cette situation et de chercher des ouvertures qui puissent permettre de renouer le fil du dialogue avec son principal adversaire qui a été déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante. La négociation, je crois que c'est très important, mais ceci étant, bon, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où les négociations vont échouer, il est fort probable que ce soit le dialogue des armes qui prenne le relais. Malheureusement, on sait que les forces nouvelles qui sont l'ancienne rébellion sont en train de se réarmer très très activement et très rapidement. On sait qu'il y a une option militaire qui est sur la table, même dans le milieu diplomatique. Donc, évidemment, ce scénario n'est pas à ignorer.
Et puis, par crainte d'un conflit politique, justement, qui vienne aux mains en Côte d'Ivoire, quelques 2000 Ivoiriens, des femmes, des enfants principalement, auraient déjà fui le pays après le second tour de la présidentielle. Une information divulguée hier par l'ONU. Le signe d'un mieux en Guinée. Le pays a annoncé avoir levé l'état d'urgence instauré le 17 novembre dernier après, vous vous en souvenez, 3 jours de violence post-électorale dans les fiefs du perdant de la présidentielle, Sélou Diallo. En Guinée, les rassemblements restent, cela dit, interdits jusqu'à l'investiture du président élu Alpha Condé. Mais, cela dit, la vie peut reprendre normalement. Les frontières seront aussi réouvertes. Une nouvelle inespérée pour plusieurs centaines de personnes bloquées depuis plusieurs jours sans eau ni nourriture à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Les chrétiens d'Irak réunis dans la prière hier à Bagdad. Une messe était célébrée en la cathédrale syro-catholique, l'église du perpétuel secours. Une messe en mémoire des fidèles et des prêtres qui ont été tués. Vous vous en souvenez aussi le 31 octobre dans une attaque d'Al-Qaïda. Des centaines de fidèles, des représentants de différentes communautés chrétiennes du pays, des membres du gouvernement étaient tous ensemble. Ils ont prié pour leur mort en faveur aussi de la paix. Pascal Warda y était, cette chrétienne irakienne porte parole de l'Organisation des droits de l'homme, Hammurabi, évoque pour nous un grand moment de communion.
C'était un grand moment de communion dans le sens où tout le monde était là dans un recueillement exceptionnel. C'est là où l'union chrétienne se voit. C'est l'union parfaite des églises dans la souffrance. Et là où le mystère que les pères de l'église n'ont pas manqué à dire, comme si l'église attendait les souffrances pour s'unir. Eh bien, je le disais à nos prélats ici en disant, mais quand on vous voit unis, c'est que dans les malheurs, s'il vous plaît, soyez unis dans les bonheurs aussi pour qu'on soit plus fort et plus présent, que les gens ne perdent pas l'espoir.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. La confession de Sakineh en direct à la télévision sur la chaîne iranienne Press TV. La mère de famille de 43 ans condamnée à la lapidation pour le meurtre de son mari a témoigné hier, la preuve par image qu'elle n'a pas été libérée comme l'annonçait cette semaine le comité anti-lapidation à Berlin. Cellule d'isolement à Londres pour le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, mais le site de celui-ci continue de divulguer des câbles diplomatiques. Plusieurs d'entre eux concernaient le Vatican. Ils ne reflétaient, et affirme le père Lombardi ce matin, que des opinions. Nous y revenons sur notre site internet.
La cavale aura été de courte durée pour l'ex-premier ministre croate Ivo Sanader.
Une erreur tactique, excusez-nous. Nous passons tout de suite à notre dossier. C'est le premier scrutin législatif auquel les Kosovars participeront depuis la proclamation de l'indépendance en février 2008. Ce sera demain. Les électeurs doivent renouveler leur parlement. Élection anticipée à cause de la démission cet automne du président Fatmir Sejdiu. Le chef du LDK a rompu avec son premier ministre Hashim Thaksi. Hashim Thaksi, le chef de l'autre parti qui compte au Kosovo. Les deux partis LPDK et LDK s'affrontent. D'autres petits partis sont en lice, de quoi provoquer l'inquiétude alors que le Kosovo font face à de nouveaux problèmes. Odile Perrault est spécialiste du pays.
Pour ce qui est le niveau national, c'est bien évidemment la reconstruction de l'État. Donc on a parlé des privatisations qui sont poussées énormément évidemment par les organisations internationales. Mais vous avez la mise en place de nombreuses institutions. Ce que la République du Kosovo, qui a déclaré son indépendance en février 2008, a commencé à faire. La création de nombreuses institutions est fait sous supervision internationale avec la présence d'organisations internationales qui monitorent, qui guident et qui participent énormément à la construction de la législation. Après, vous avez des défis pour ce qui concerne l'éducation, la santé, donc des pôles très importants dont on parle peu mais qui sont énormément en souffrance au Kosovo. Et enfin, les difficultés européennes, c'est l'alignement du Kosovo sur les instructions de l'Union européenne. Le Kosovo a beaucoup fait à ce niveau-là, mais il reste encore l'un des derniers partenaires, en fait, des Balkans vis-à-vis de l'Union européenne.
Un des candidats a déclaré « mieux vaut investir dans l'agriculture que dans les routes ». Est-ce une critique envers la politique économique menée par le gouvernement Thaksi ou une invite à développer le secteur agricole ?
Tous les investissements qui ont été faits dans les routes, il était quand même nécessaire parce que l'infrastructure routière au Kosovo n'était pas dans un très bon état. Le problème, c'est que ces grands projets routiers ont aussi permis de grands mouvements d'argent. Et l'un des gros problèmes du Kosovo, c'est quand même la corruption. Et évidemment, tous ces projets ont développé la corruption. Ensuite, en effet, que l'agriculture soit un secteur à développer et à soutenir, c'est certain. Parce que l'agriculture est très importante au Kosovo, mais c'est surtout une petite agriculture. Et puis, avec l'ouverture des frontières et le commerce en fait régional et puis européen, la question va se poser de cette agriculture qui ne sera pas du tout protégée et qui est pourtant, on pourrait dire, presque biologique. Et finalement, cette agriculture souffre déjà, par exemple, de la compétition des produits slovènes.
Les relations avec la Serbie sont toujours au centre de la vie politique kosovare. Le contentieux entre les deux pays est loin d'être solutionné. Alors, que devra faire le prochain gouvernement par rapport à Belgrade ?
La première chose qu'il devra faire, c'est s'atteler au dialogue, le fameux dialogue qui est poussé par l'Union européenne et par la communauté internationale en général. Donc il faudra évidemment mener ce dialogue et qui doit porter surtout sur des questions dites techniques. Là encore, il y a une petite difficulté à savoir est-ce que les domaines techniques comme l'eau, les routes, justement, l'éducation, la justice, c'est essentiellement technique ou ça risque pas de déborder sur le politique, mais ça on verra quand ce sera mis en place à ce moment-là.
Et quid de la minorité serbe principalement présente au nord du Kosovo ?
Vous avez la minorité serbe au nord du Kosovo et puis vous avez celle qui se trouve dans ce qu'on appelle des enclaves en fait au sud du Kosovo. Ils sont d'ailleurs plus nombreux au sud, entre guillemets pour le sud, qu'au nord en fait. Alors si la question porte par exemple sur leur attitude pour les élections qui vont venir, a priori les Kosovars serbes du sud voteront sans doute beaucoup plus que lors des élections précédentes. Il y a beaucoup de partis qui les encouragent à voter. Et puis, pour la première fois, Belgrade n'a dit ni oui ni non, en quelque sorte, mais surtout a précisé, même les Kosovars serbes qui voteront ne seront pas ostracisés, en fait, par la Serbie. Au nord, la situation est un petit peu plus tendue, même si vous avez certaines personnalités qui aussi ont essayé d'encourager un peu plus d'ouverture. Mais bon, vous avez la proximité géographique qui explique aussi la possibilité pour la minorité du nord d'être plus ferme, évidemment.
Odile Perrot, interrogé par Xavier Sartre, c'est la